Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 35. Il leur proposa une autre parabole, disant: Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et sema dans son champ, lequel est, il est vrai, plus petit que toutes les semences. Mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. Jésus dit toutes ces choses aux foules en parabole, et sans parabole il ne leur disait rien, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par le prophète, disant: J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je proférerai des choses qui ont été cachées dès avant la fondation du monde.
Abordons donc le sujet de la deuxième parabole du royaume des cieux. Nous avons vu tout d'abord une première parabole, il y en a 7 dans ce chapitre 13 de Matthieu. Nous avons vu la parabole du semeur, elle n'est pas à proprement parler une parabole du royaume des cieux, toutefois, le Seigneur Jésus le dit lui-même, elle est une parole du royaume. Au verset 18, nous avons lu ceci: Vous donc, écoutez la parole du semeur, toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Puis nous avons 6 paraboles, les paraboles réellement du royaume des cieux. Ce matin, nous avons été occupés de la parabole de l'ivraie. Il y en a encore 2 autres, celle du début de notre lecture. La parabole du royaume des cieux semblable à un grain de moutarde est la parabole du royaume des cieux semblable à du levain qu'une femme a pris. On a fait remarquer que ces 6 paraboles du royaume des cieux se divisent en 2 parties. Il y en a 3, tout d'abord, qui nous parlent du mal qui allait s'introduire dans cette sphère qui est la sphère du royaume des cieux, un royaume dont le roi est actuellement absent, caché dans le ciel. Et puis les 3 autres représentent alors, par voie de contraste, ce qui est cher au cœur de Dieu. Il est parlé d'un trésor, il est parlé d'une perle de très grand prix. C'est l'assemblée, c'est l'église, c'est la maison de Dieu, c'est l'assemblée qui est particulièrement chère au cœur de Dieu, cher au cœur du Seigneur. Ce matin, nous avons donc vu, dans la parabole de l'ivraie, nous avons vu cette pensée du mélange du bien et du mal, de bons éléments et de mauvais éléments, d'éléments qui ont la vie de Dieu et d'éléments qui, tout en parlant de Dieu, et même du bon Dieu, en parlant du Christ, en parlant de la Bible, n'ont pas du tout la vie de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle des professants, c'est-à-dire des gens qui parlent même de Dieu, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. C'est ce dont nous parle cette parabole de l'ivraie. L'ivraie n'étant pas seulement l'image de faux enseignements ou de fausses doctrines, mais l'image des personnes qui propagent ces fausses doctrines. Le Seigneur Jésus le dit lui-même dans l'exposition de cette parabole. Il dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, qu'est-ce que l'ivraie? Ce sont les fils du méchant. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Dans la deuxième parabole, première parabole de notre lecture maintenant, nous avons alors l'image de la prétention, de la folle prétention, de l'orgueil. On veut s'accroître, on veut s'agrandir, on veut jouer un rôle, on veut dominer. Et au cours des siècles, n'a pas été le monde christianisé ou la chrétienté, où le pouvoir civil et même le pouvoir militaire étaient au pied de ce pouvoir dit religieux, le pouvoir de la chrétienté. C'est cela ce qui est représenté par ce grand arbre. Et enfin, dans la troisième de ces trois premières paraboles, nous avons alors le levain, c'est-à-dire image d'un faux enseignement, d'une fausse doctrine ou de fausses doctrines qui se sont introduites dans cette sphère du royaume des cieux. Ce sont donc, dans un sens, des paraboles plutôt pénibles à considérer parce qu'elles nous parlent du mal qui s'est introduit dans ce royaume des cieux, tandis que les trois dernières, alors, réjouissent davantage notre cœur, puisqu'elles nous parlent de ce qui est cher au cœur de Dieu. Le monde christianisé n'est pas resté longtemps dans la modestie qui lui eût convenu. On s'est rapidement élevé, on s'est enorgueilli, on a recherché et la gloire qui vient des hommes et le pouvoir dans ce monde. Pourtant, le grain de moutarde qu'est-il? Le Seigneur le dit, lequel il est vrai est plus petit que toutes les semences. C'est vraiment quelque chose de minuscule. C'est cela qui aurait dû caractériser l'Église au cours des âges. Mais l'Église, ou plutôt la chrétienté, s'est élevée, s'est enorgueillie. Elle a voulu devenir cet arbre dont il est dit que il est, quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent loger dans ses branches. Cette pensée d'un arbre et d'un arbre qui est devenu grand nous fait penser déjà à des enseignements de l'Ancien Testament. Il a été donné au prophète Ézéchiel en son temps de prononcer des paraboles déjà. Le chapitre 17e de son livre nous le dit. C'est la parabole dite des deux grands aigles, le premier devant représenter le roi de Babylone et le deuxième grand aigle devant représenter le roi d'Égypte. Et alors, qu'est-il arrivé? Ce premier grand aigle s'est acharné après un cèdre qui lui-même s'est élevé et qui devait représenter le peuple d'Israël. Toute l'histoire de la domination de Babylone vis-à-vis d'Israël. Nous lisons en effet en Ézéchiel 17, nous lisons ceci au premier verset, « La parole de l'Éternel vint à moi, disant, fils d'homme, propose une énigme et présente une parabole à la maison d'Israël et dit, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, un grand aigle, la grande aile, la grande peine, plein de plumes, qui était de couleurs variées, vint au Liban et prit la cime d'un cèdre. Il arracha la plus haute de ses jeunes pousses et la transporta dans un pays de marchands et la mit dans une ville de commerçants. Il est parlé ensuite de ce cèdre dont Dieu s'occuperait lui-même, c'est-à-dire reprendrait les relations avec son peuple, le peuple d'Israël. Et la conclusion de cette instructive parabole est celle-ci, verset 24e, alors que le cèdre est devenu grand, il est parlé du grand cèdre, il est parlé même du cèdre magnifique dans ce chapitre 17, et la conclusion, le dernier verset, tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'abaisse l'arbre élevé et j'élève l'arbre abaissé, je fais sécher l'arbre vert, et je fais fleurir l'arbre sec, moi, l'Éternel, je l'ai dit, et je le ferai. Et l'autre récit, provenant d'un songe qu'a eu le roi Nebuchadnezzar, peut-être un récit qui nous est plus familier que celui du prophète Ézéchiel, en Daniel 4, il nous est parlé de ce songe que le roi de Babylone a eu. C'est le songe dont l'objet est un arbre, un grand arbre. Verset 11 de Daniel 4. L'arbre crut et devint fort, et sa hauteur atteignit jusqu'aux cieux, et on le voyait jusqu'au bout de toute la terre. Si le cèdre en Ézéchiel 17 nous parle du peuple d'Israël, alors ici ce grand arbre nous parle du roi Nebuchadnezzar lui-même, donc du monarque gentil, du monarque des nations. Et c'est à son propos que l'on entend un saint, un voyant, qui dit « Abattez cet arbre ». Il est devenu un grand arbre, Nebuchadnezzar s'en est hautement glorifié, et voici la voix du voyant qui se fait entendre « Abattez cet arbre ». Mais il y a une restriction quand même à l'égard de cette destruction, et il est dit au verset 23e, abattez l'arbre et détruisez-le, toutefois laissez dans la terre le tronc de ses racines. Et le voyant donne l'explication suivante quant à ce qu'on a dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, ton royaume, ô Nebuchadnezzar, te demeurera quand tu auras connu que les cieux dominent. Remarquez, chers amis, déjà dans l'Ancien Testament, ce pressentiment de ce que serait le royaume des cieux. Notre frère, dans l'introduction ce matin, nous a développé cette pensée du royaume des cieux. Les cieux dominent, et Nebuchadnezzar est éprouvé à ce point-là, qu'il apprenne ceci, que ce n'est pas lui qui est le dominateur, encore moins le dominateur universel, c'est les cieux qui dominent. Il a plu à Dieu, à un moment donné, de conférer une autorité particulière, la refusant à son peuple Israël, la confiant aux monarchies dites des gentils, le roi Nebuchadnezzar étant le premier de ces monarques. À lui, l'autorité a été confiée. Mais, dans l'exercice de cette autorité, il s'est enorgueilli, s'est élevé, il est devenu véritablement ce grand arbre. Ce grand arbre a été abattu, les racines ont été toutefois respectées. Pourquoi une telle dispensation de la part de Dieu? Afin que le roi Nebuchadnezzar sache ceci, que les cieux dominent. Voilà déjà cette pensée d'un royaume des cieux. Les cieux domine, en contraste avec les royaumes de la terre. Voici donc cette pensée d'un grand arbre, soit selon la parabole du prophète Ézéchiel, soit selon le songe du roi Nebuchadnezzar. Nous avons là donc un grand arbre en rapport avec Israël, un grand arbre en rapport avec les gentils, le roi Nebuchadnezzar, et puis alors, dans notre parabole au chapitre 13 de Matthieu, nous avons la pensée d'un grand arbre en rapport avec le monde dit christianisé, ce que l'on appelle communément la chrétienté, c'est-à-dire ce vaste mélange de bons éléments, on a reçu la vie de Dieu, on a la vie de Dieu, et de mauvais éléments, on n'a pas la vie de Dieu. C'est cela l'enseignement de cette deuxième parabole du royaume des cieux. Et le Seigneur d'ajouter, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. Déjà hier après-midi, on a fait remarquer ceci, que très souvent dans la parole, les oiseaux représentent quelque chose de mauvais. En fait, les oiseaux, quand il en est parlé, ou bien c'est une simple constatation, œuvre de la création de Dieu, ou bien alors, sur le plan moral, ils représentent quelque chose de mauvais. Nous rappelons le passage du livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, au chapitre 5e, nous dit ceci, Jérémie 5, le verset 27, qui est l'un des passages qui nous montre que les oiseaux représentent en principe mauvais, comme une cage est pleine d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de fraudes. Et en fait, c'est ce qui a caractérisé le monde christianisé. Et l'évolution de la chrétienté marquée par des actes horribles, des choses franchement épouvantables. Véritablement, les oiseaux du ciel ont habité dans les branches de ce qui est devenu ce grand arbre. Il y a là aussi un enseignement très pratique pour nous-mêmes, dans le sens de l'exhortation à l'humilité. Combien il est souhaitable que nous recherchions cette humilité, que nous soyons gardés de l'orgueil qui nous envahit bien facilement les uns et les autres. Nous sommes exhortés alors comme témoins du royaume des cieux, comme appartenant à ce royaume, comme étant des sujets du royaume de Dieu, combien nous avons besoin d'être caractérisés par cette humilité. Humiliez-vous, dit l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques nous exhorte à fuir l'orgueil, que nous soyons ainsi plus semblables à notre Seigneur, qui a pu dire au jour de sa chair, je suis humble, je suis doux, je suis débonnaire, humble de cœur, apprenez de moi.
Que dans ce chapitre, les six premières paraboles se regroupent deux par deux. Leur forme, leur sujet, il y a des analogies. Les deux premières, un semeur, une semence, un champ, un résultat produit. Les paraboles du trésor dans le champ et de la perle ont également des analogies, quelque chose de précieux qui est caché, qui est racheté à grand prix. Et ces deux paraboles d'ailleurs sont introduites de la même manière par un encore, le royaume des cieux. Il en est de même de ces deux paraboles qui sont au milieu, donc celle du grain de moutarde qui de tout petit devient immense et celle du levain caché dans la pâte, quelque chose qui gonfle, qui prend du volume. Et une analogie alors entre ces deux paraboles, c'est que ce qui donne du volume ou produit quelque chose de mauvais, ce n'est pas un bon signe. Dans le monde chrétien, souvent ces paraboles sont expliquées d'une manière très favorable. On dit, voilà, le christianisme c'est très beau, c'est parti de quelques apôtres qui ont annoncé l'évangile, et puis vous voyez quel grand résultat aujourd'hui le monde chrétien, quelle place il occupe dans l'humanité, quelle belle chose. En méconnaissant tout à fait la portée des oiseaux. On dit il abrite, n'est-ce pas? On peut également expliquer les oiseaux dans le sens positif, mais c'est absolument contraire, même à ce que nous avons trouvé dans ce chapitre, puisque on nous a fait remarquer que au verset 19, les oiseaux du ciel qui étaient venus ravir la semence sur le chemin sont interprétés comme étant le méchant qui vient. Donc, dans le même chapitre, à quelques versets d'intervalle, les oiseaux ne peuvent pas représenter quelque chose de mauvais d'abord et de bon ensuite. Ces oiseaux du ciel qui demeurent dans ce grand arbre, on comprend donc bien que ce sont toutes sortes de mauvaises choses, mauvaises doctrines qui ont trouvé leur refuge dans ce qui aurait dû rester à l'abri de tout cela. Et pour en rester d'abord à cette parabole du grand arbre, il représente donc le royaume des cieux, puisque le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. On voit donc là que la forme actuelle que prend le royaume des cieux, on l'a dit déjà, celle de la chrétienté est plus vaste que l'Église, englobe une catégorie de personnes plus nombreuse que l'Assemblée elle-même, composée de vrais enfants de Dieu. Il est donc bon de distinguer ce qui touche au royaume et ce qui touche à l'Assemblée. Enfin, nous sommes davantage occupés de l'Assemblée, c'est un sujet précieux qui concerne les vrais enfants de Dieu, et pas seulement ceux qui composent nos rassemblements, mais l'ensemble de ce qui appartient au Seigneur, ce qui forme l'Église de Jésus-Christ et qui sera enlevé à sa rencontre. Mais il y a une sphère plus vaste qui comprend tous ceux qui se réclament du nom de chrétien. Et ils l'ont pris comment ? Par le baptême. Le baptême est la proclamation qu'on est chrétien. C'est donc un nom qu'on prend sur soi, qu'on assume, on se réclame du nom de Christ. Et par là même, on est introduit dans une sphère où, normalement, l'autorité du Seigneur s'exerce. Et la fin de l'Évangile est caractéristique à ce sujet, puisque le Seigneur dit, au verset 18 du chapitre 28, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a donc une sphère sur laquelle l'autorité du Seigneur doit normalement s'exercer, et quelqu'un qui porte le nom de chrétien par son baptême, son affiliation à l'une ou l'autre église de la chrétienté, c'est quelqu'un qui dit, voilà, Christ est mon Seigneur. C'est une de ces personnes qui le Seigneur Jésus dira une fois, vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis. Ces personnes qui heurteront à la porte comme les vierges folles, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas vraiment des miens. Mais toutefois, elles appartenaient à ce qui est le royaume extérieur sur lequel le Seigneur a normalement ses droits. Mais des droits non reconnus, non revendiqués par la personne qui prend cette position. Voilà combien c'est grave. Et pour nous qui sommes véritablement des enfants de Dieu, nous aimons à penser ici, tous dans cette salle, combien est important de ne pas connaître seulement Jésus comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Qu'il soit aussi, ne disons pas notre roi, parce que la position de l'Église, de l'épouse de Christ, est plus intime. Ce ne sont pas les sujets du roi qui constituent l'Église, mais ce sont ceux qui lui sont associés dans son règne et qui régneront avec lui. C'est une position royale avec lui, la position d'une reine avec le roi, et pas des sujets. Mais il y a les sujets, ceux qui se réclament de l'autorité du Seigneur et qui ne la reconnaissent pas dans la pratique. C'est donc important de reconnaître cette distinction, de l'avoir toujours à l'esprit entre l'Église et le royaume.
De moutarde, normalement, ça ne donne pas un arbre. Ça donne un buisson assez haut, plus haut que les herbes, mais pas un grand arbre. Ce qui laisse penser que quand le Seigneur parle ici d'un grand arbre, c'est qu'il y a une croissance qui n'est pas normale. Il y a quelque chose d'anormal qui s'est fait. Alors ça peut satisfaire, notre frère a parlé tout à l'heure de ce que les hommes peuvent dire, voilà, il y a un grand chemin parcouru entre la chambre haute et puis ce qu'il y a maintenant dans la chrétienté, des millions de chrétiens ont fait des comptes, on calcule et on dit, voilà, la chrétienté, c'est tout cela. Mais dans cette chrétienté, eh bien, combien y a-t-il de vrais croyants? Combien y a-t-il de personnes qui ont vraiment donné leur cœur au Seigneur Jésus? Alors quand on voit cet arbre qui grandit, on a lu déjà, notre frère M. Roussel a lu différents passages sur différents arbres. C'est un arbre qui grandit, c'est toujours un signe de quelque chose qui est de l'orgueil, la grandeur qui s'élève contre Dieu. Et on peut lire, par exemple, dans Ésaïe au chapitre 2, au verset 12, « Il y a un jour de l'Éternel des armées contre tout ce qui s'exalte et s'élève, contre tout ce qui est haut, et ils seront abassés, contre les cèdres du Liban haut et élevés, et contre tous les chênes de Bazan. » Tout ce qui s'élève, tout ce qui est grand, mais grand pour s'élever contre Dieu, en fin de compte, pour dans ce qui caractérise l'orgueil de l'homme, tout cela sera abaissé. Il y a un autre passage dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 31, où Ézéchiel parle au Pharaon et il lui parle de Assur. Et au Ézéchiel 31, verset 3, « Assur était un cèdre sur le Liban, beau par sa ramure et touffu, donnant de l'ombre et de haute taille. » Et plus loin au verset 6, « Tous les oiseaux des cieux faisaient leur nid dans ses rameaux, et toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses branches, et toutes les nations nombreuses habitaient sous son ombre. » Les oiseaux dans ses branches, exactement la même image que ce que nous avons ici, des oiseaux dans ses branches. Mais alors, ce grain de moutarde qui est devenu un grand arbre, où est-ce qu'il va aboutir? Qu'est-ce que va donner cette chrétienté? Il y aura un jour, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, enfin quand le Seigneur viendra nous chercher, et à ce moment-là, sur la terre, il n'y aura plus de vrais croyants, mais il y aura encore des chrétiens, il y aura encore des gens qui diront qu'ils sont chrétiens, il y aura encore des églises, et il y aura ce grand système qui va aboutir, qui donnera Babylone. Et quand on lit dans Apocalypse 18, à propos de Babylone, on retrouve en fait la même population dans Babylone que dans cet arbre dont il est question dans Matthieu 13. Apocalypse 18, au verset 2. Et il cria avec une forte voix, disant, « elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue la demeure de démons, le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. » Babylone, qui est enfin la fin de cette histoire de la chrétienté. Babylone, le repère de tout oiseau immonde, comme notre arbre ici, qui était un petit grain de moutarde, qui a grandi et qui faisait de l'ombre et dans lequel les oiseaux des cieux venaient se reposer.
Père, nous avons l'histoire du royaume ou de la chrétienté dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Nous avons l'histoire de l'Assemblée dans sa responsabilité. Il doit donc avoir un parallélisme entre ces deux. Et nous le pouvons constater facilement. Et cela nous aide pour bien distinguer le caractère de cette parabole de Matthieu 13. Parlons uniquement des paraboles 2, 3 et 4. Ce matin, nous avons vu la parabole de l'ivraie et de la bonne semence, la deuxième parabole. En Apocalypse 2, la deuxième épître, c'est celle à Smyrne. Et Smyrne, c'est le temps de la persécution, le temps de l'activité de l'ennemi. C'est exactement ce que nous avons vu ce matin, l'activité de l'ennemi qui veut détruire l'œuvre de Dieu. La troisième parabole, ici, Matthieu 13, C'est donc le grain de moutarde qui devient un grand arbre, un pouvoir dans le monde. La troisième épître en Apocalypse 2, c'est Pergame, dont le Seigneur dit, je sais où tu demeures, là où il y a le trône de Satan. Donc c'est exactement une relation, une liaison avec le monde, un pouvoir dans le monde. Mais le vrai caractère de l'Assemblée, ce n'est pas d'être un pouvoir dans le monde aussi longtemps que le Seigneur Jésus est rejeté par le monde. Donc, l'Assemblée a perdu son caractère céleste. La chrétienté est devenue une puissance dans le monde. La quatrième parabole, c'est le levain. La quatrième épître, c'est celle à Thyatire. Là, nous trouvons le mal, la fornication et l'idolâtrie. Le mal dans sa forme la plus grosse. Et c'est exactement ce qui représente le levain. En contradiction avec tout ce qu'il a dit dans la chrétienté, où on veut dire que c'est une bonne influence, il faut retenir la vérité que le levain représente le mal, comme nous voyons exactement dans l'Apocalypse. Cela nous aide de faire ce parallélisme et nous constatons la même chose, le déclin de ce que le Seigneur a donné.
Remarque, voici, dans Acte 1, le Seigneur se présente à ses disciples, aux apôtres, et c'est dans des conditions aussi humbles que possible, n'attire pas l'attention sur eux. Ce sont quelques-uns seulement qui vont le voir partir au ciel, c'est tout à fait le petit grain de moutarde qui, au début de sa croissance, caractérisé par ce qui est humble, par ce qui est petit. Mais si nous ouvrons l'Épître aux Corinthiens, nous faisons cette simple remarque. Il n'a pas fallu longtemps pour que, hélas, dans l'Église, se glissent ces pensées d'élévation. Et Paul devra dire, nous souhaiterions bien que ce soit le temps du royaume, où nous jouirions alors avec vous d'être chez nous dans le monde, puisque le monde dans lequel nous nous trouvons, il appartient au Seigneur, et nous régnerons avec lui. Mais en attendant, il est aux mains d'un usurpateur. Et en suivant le maître qui n'a eu qu'une crèche pour naître, et une croix pour terminer sa carrière, Paul disait, nous sommes faibles, nous sommes marqués par ce qu'il y a de plus faible, considérés comme le rebut des hommes. Et vous êtes fort, vous vous établissez, vous prenez de l'extension, de l'importance dans ce monde. Pour dire ceci, qu'il n'a pas fallu longtemps, pas même une génération, pour que ce principe de l'élévation, ce principe de l'orgueil, s'empare du cœur des croyants pour devenir, hélas, ce qu'il en est aujourd'hui. Peut-on trouver la moindre identification morale entre la chambre haute à Jérusalem et le centre de la chrétienté aujourd'hui? La prétention d'être la continuation historique de l'Église du commencement, cette prétention peut-elle se soutenir? Si l'on compare le commencement, acte 1, acte 2, petite chose méprisée dans le monde, comme le Seigneur l'a été, et cet immense système qui non seulement s'est identifié avec le monde, mais qui le domine, et on devient la tête elle-même.
Le frère, au début de sa vie chrétienne, peu après sa conversion, avait eu l'occasion de se rendre à Rome. Il nous écrit une carte depuis Rome avec ses seuls mots. Rien d'autre, c'est seulement quel chemin, que le chemin parcouru par le monde christianisé depuis la chambre haute de Acte 1 jusqu'à la basilique de cette capitale. C'est tout, il n'a rien dit d'autre. Mais cette réflexion montrait en effet, comme notre frère souligne maintenant, le chemin parcouru dans le sens de la prétention, de la vanité, de l'orgueil, le désir de domination, depuis la chambre haute, la petite, la modeste chambre haute d'acte 1, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'en est la capitale maintenant. Dans la troisième parabole, la deuxième parabole du royaume des cieux, il est dit au verset 33, « Il est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi trois mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. » Le levain dans la parole, dans l'évangile, le levain est présenté sous trois caractères différents. Lisons un passage au chapitre 16 du même évangile. Il y a tout un alinéa où le Seigneur parle à ses disciples. « Voyez, dit le Seigneur, soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. » Voilà deux formes de levain. Qu'est-ce que le levain des pharisiens? Le Seigneur lui-même, dans le troisième évangile, le dit au chapitre 12. Au premier verset, « Cependant les foules s'étant rassemblées par milliers, de sorte qu'ils se foulaient les uns les autres, il se mit avant tout à dire à ses disciples, « Tenez-vous en garde. » Il disait ce qu'il prétendait. Or, mettre la loi en pratique, cela était autre chose. C'est pour cela que le Seigneur doit dire à la fin de son ministère, là où il y a dans ce chapitre 23 les sept malheurs que le Seigneur prononce sur les conducteurs du peuple, à l'égard des pharisiens, il doit dire ceci, ils disent, mais ils ne font pas. Ils disent, ils parlent de la loi de Moïse, ils la connaissent même très bien, ordonnance après ordonnance, ils disent, mais ils ne font pas. Et quel enseignement pour nous, chers amis. Cela, c'est l'hypocrisie, dit le Seigneur, c'est l'hypocrisie. Combien nous avons besoin de prendre garde, d'être prudents et modestes dans l'enseignement de la parole de Dieu, tout spécialement dans l'enseignement exhortatif, quand nous adressons des exhortations à nos frères, nos sœurs, combien prudents nous devons être, modestes, parce que ne nous arrive-t-il pas de dire certaines choses à la parole de Dieu, mais ne pas les mettre en pratique? Le Seigneur a dû dire, ils disent, mais ne font pas. Eh bien, le levain des pharisiens, c'est cela, c'est l'hypocrisie. Puis, il y a le levain des sadducéens. Acte 23 nous dit clairement ce que sont ces gens-là. Le levain des sadducéens, c'est le levain de l'incrédulité. On ne croit pas qu'il y a des anges, on ne croit pas aux esprits, en tout cas pas au Saint-Esprit de Dieu, on nie la résurrection. Voilà le levain des sadducéens. C'est vraiment le levain de l'incrédulité. S'il n'y a pas de résurrection, chers amis, mais tout christianisme est vain. D'un coup, l'édifice du christianisme s'écroule si véritablement il n'y a pas de résurrection, à commencer par la résurrection de notre Seigneur. Et alors, dans le deuxième évangile, dans l'évangile selon Marc, nous avons le levain des Hérodiens. Au chapitre 5e de l'évangile selon Marc, le Seigneur dit ceci au chapitre 8e de l'évangile selon Marc, au verset 15e. Ils avaient oublié de prendre des pains et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la nacelle. Il leur enjoignit, disant, « Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Donc, le levain des pharisiens, le levain des sadducéens, comme il est dit ailleurs, le levain des hérodiens. Le levain des Hérodiens, c'est alors la gloire du monde, la gloire qui vient de l'homme. Il y en avait en Israël qui se réjouissaient d'être dans la proximité d'Hérode. On recherchait sa compagnie, on prétendait l'admirer, en fait on le flattait. On était là dans cette atmosphère des Hérodiens près d'Hérode, bénéficiant de certaines faveurs, cela est clair. C'est pour cela que le levain des Hérodiens est devenu l'image du levain, de ce qui est mondain, de la gloire qui vient des hommes, et dont on veut profiter pour pouvoir profiter de certains avantages matériels. Eh bien, dans l'autre passage, il nous est parlé, dans cette deuxième parabole du royaume des cieux, il nous est parlé dans le vin, et dans le vin qu'une femme a pris, qu'elle a caché parmi trois mesures de farine. La farine représentant plusieurs fois dans la parole, représentant la pureté de l'enseignement divin, la farine même, d'après les ordonnances du livre du Lévitique, nous parle du Seigneur Jésus lui-même, de sa parfaite humanité. La farine, c'est ce qui a trait à Jésus, c'est ce qui a trait à sa perfection, c'est ce qui a trait à la perfection de l'enseignement divin. Eh bien voilà qu'une femme vient, elle introduit du levain parmi les trois mesures de farine, peut-être allusion aux trois personnes de la divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et une telle vérité a été rapidement altérée par les hommes au cours des siècles. Le levain, donc, a trait à ce qui est contraire à l'enseignement divin, autrement dit, à ce qui est délétère, à ce qui est mauvais, ce qui est appelé dans la parole les mauvaises doctrines. Chers amis, quand il est parlé de la saine doctrine, c'est toujours au singulier. Il n'est pas parlé des bonnes doctrines, il n'est pas parlé des saines doctrines, il est parlé de la saine doctrine, de la bonne doctrine. Tandis qu'alors, quand il est parlé des mauvaises doctrines, elles sont tellement nombreuses, elles pullulent tellement, qu'elles sont toujours mentionnées au pluriel. Nombreuses sont les exhortations par lesquelles nous sommes mis en garde contre les mauvaises doctrines. Nous citons simplement Hébreux 13, où l'auteur de l'Épître nous dit de fuir les doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. D'une part, les mauvaises doctrines, qui ne font que détruire l'être intérieur d'un homme, et d'autre part alors la grâce, ce qui édifie, ce qui nourrit. Il est bon, dit l'auteur de l'Épître, que le cœur soit affermi par la grâce. Un mot, chers amis, encore sur ce concept de la doctrine, la saine doctrine, la bonne doctrine. Nous aimerions lire un passage dans l'Épître aux Romains, en rapport avec cela, au chapitre 6e. Le verset 17. Grâce à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il est parlé d'une forme de doctrine, et il est remarquable de voir que la bonne doctrine ou une bonne doctrine est mentionnée en rapport avec les trois grandes économies que nous connaissons. Nous voulons dire par là l'économie passée, c'est-à-dire l'économie de la loi, l'économie présente, c'est-à-dire l'économie de la grâce, et l'économie à venir que l'on aime à appeler l'économie de la gloire. Eh bien, en rapport avec ces trois économies, il est parlé dans les Écritures d'une bonne doctrine. En rapport avec l'économie de la loi, nous avons ce passage du livre des Proverbes. Au chapitre 4e du livre des Proverbes, il nous est dit ceci. Au premier verset du chapitre 4, « Fils, écoutez l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas mon enseignement. C'est dans le livre des Proverbes, écrit par le roi Salomon, c'est la sagesse qui s'exprime ici, pas seulement une vertu morale, que l'on appelle la sagesse quand on parle d'un frère qui est sage, d'une sœur qui est sage, mais il s'agit davantage d'une personne, c'est la sagesse personnifiée, c'est la personne de Christ, comme le chapitre 8 le montre d'une façon évidente. C'est la personne de Christ, et c'est Christ lui-même qui vient nous dire « Je vous donne une bonne doctrine ». Nous sommes au jour de la loi, nous sommes au temps de l'économie de la loi. « Je vous donne une bonne doctrine, n'abandonnez pas mon enseignement ». Chacun sait que, en tout cas dans la langue grecque, le mot « doctrine » et le mot « enseignement » sont un seul et même mot. Qui dit « doctrine » dit « enseignement », qui dit « enseignement » dit « doctrine ». Nous avons d'un autre côté alors, en rapport avec l'économie à venir, au livre du prophète Ésaïe. Au livre du prophète Ésaïe, il nous est parlé d'une œuvre de Dieu se faisant dans le cœur des enfants d'Israël, et en Ésaïe 29. En Ésaïe 29, il nous est dit ceci. Au verset 22e, ainsi dit à la maison de Jacob l'Éternel qui racheta Abraham, maintenant Jacob ne sera plus honteux, maintenant sa face ne sera plus pâle, car quand il verra ses enfants, l'œuvre de mes mains au milieu de lui, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint Jacob, ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux qui errent en esprit auront l'intelligence et les désobéissants apprendront la bonne doctrine. C'est ce qui arrivera au peuple d'Israël à la fin des jours, revenant à son Dieu, à Jéhovah, revenant au Messie, recevant Jésus comme étant leur Messie, eh bien, ils auront de l'intelligence. Et de désobéissants qu'ils étaient, ils deviendront obéissants, puisqu'ils apprendront la bonne doctrine. Avons-nous compris, chers amis, ce passage de Romains 6, où il est parlé d'une forme de doctrine? Et nous entendons encore, très clairement, lors d'une conférence en un autre pays, notre cher frère M. André Gibert qui nous disait « Mais voilà, cette forme de doctrine, une forme de doctrine appartenant à l'économie passée, une forme de doctrine appartenant à l'économie à venir, et puis maintenant, en rapport avec l'économie de la grâce, nous connaissons ce qu'est la bonne doctrine, la saine doctrine, dont l'apôtre Paul parle dans un passage, entre beaucoup de passages, dans la première épître à Timothée, parlant précisément à Timothée. Si tu proposes ces choses qui pouvaient déjà caractériser une certaine apostasie, pas la grande apostasie à venir dont on a lu quelque chose ce matin, mais une apostasie partielle, où il est dit que dans les derniers temps, quelques-uns apostasieront de la foi, et en particulier, que feront-ils? Ben, ils interdiront le mariage, puis d'autre part, ils interdiront de manger les viandes que Dieu a créées précisément pour le profit de l'homme. Eh bien, Timothée enseigne ce qu'est la vérité, verset 6 du chapitre 4e de la première épître de Timothée, en proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Timothée l'avait pas seulement comprise, il l'avait pleinement comprise. Comme un petit peu plus loin, il avait été pleinement convaincu d'une telle doctrine. Comme encore, il reçoit alors, ayant pleinement compris, étant pleinement convaincu, alors il était à même d'accomplir pleinement le service qui lui avait été confié. Et la parole de Dieu mentionne spécialement le service de l'évangélisation. Sois un évangéliste, accomplis pleinement à ton service. Eh bien, ces passages, chers amis, ont leur importance, faut-il le dire. Ce sont là ces formes de doctrine en rapport avec les différentes économies. Et l'apôtre Paul peut rendre grâce à Dieu de ce que les frères à Rome autrefois étaient esclaves du péché, mais de ce qu'ensuite ils avaient obéi. Puis pas seulement une obéissance superficielle ou momentanée, mais ils avaient obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle ils avaient été instruits. Et c'est un beau témoignage qu'on peut rendre à un cher frère qui est arrivé au terme de sa course lors d'un service, lors du service de l'ensevelissement, quand on considère toute l'existence passée et qu'un tel frère ou une telle sœur sont demeurés fondés dans une telle doctrine, la bonne doctrine, la doctrine de la grâce, quand, à leur heure dernière, alors qu'ils ont quitté cette terre, avant de prendre définitivement congé d'eux, quand on peut dire d'eux, ils ont obéi véritablement de cœur à la forme de doctrine dans laquelle ils avaient été un jour, au début de leur vie, instruits. La vie s'est écoulée, sont arrivés à un âge avancé, toujours obéi à cette forme de doctrine, la doctrine chrétienne, révélant ce qu'est Dieu, ce qu'est la grâce de Dieu. Ils ont obéi pleinement de cœur à cette forme de doctrine dans laquelle ils avaient été instruits. Voilà, chers amis, ce qu'est cette doctrine et combien vite, par les hommes dites religieux, elle a été altérée. On a introduit du levain au milieu des trois mesures de farine.
Comme nous venons de l'entendre, le mal doctrinal, un passage de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 8, nous montre qu'il représente aussi le mal moral. Il nous est dit, verset 8 du chapitre 5, 1 Corinthiens, « Nous célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. » Ce rappel nous est fait à l'occasion d'un mal moral grave qui s'était introduit à Corinthe. Le vieux levain, cet adjectif « vieux », nous montre l'ancienneté du péché, du mal, et fait remonter la source du mal à son origine, c'est-à-dire à nos premiers parents. Et le mal introduit ce double caractère, mal moral, n'est-ce pas, pas besoin d'explication quant à cela, nous voyons se développer, et y compris dans ce qui porte le nom de chrétien dans la chrétienté aujourd'hui d'une manière abominable, sans aucun frein, étalé sur les murs et par tous les médias possibles. Eh bien voilà le mal moral qui s'étale sans honte. Et puis le mal doctrinal qui n'est peut-être pas considéré avec une telle gravité dans une période où on a l'habitude de laisser penser de laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Nous sommes dans un temps de tolérance. Si quelqu'un a des idées, même sous le couvert d'être chrétien, on ne lui fera pas de procès pour ça. On a l'habitude de laisser aux gens la liberté de penser. Mais en fait, l'un et l'autre sont graves, aussi graves. Et le mal moral et le mal doctrinal se donnent la main, vont de pair, vont toujours de pair. On le comprend dans un sens par le fait que quelqu'un qui se conduit mal, il adaptera la doctrine à son comportement. C'est ce qu'on appelle ce que la parole appelle tourner la grâce en dissolution. Il fera valoir que Dieu est un Dieu indulgent, un Dieu bon, un Dieu qui supporte, un Dieu qui n'est pas un Dieu de jugement, et on raillera de la Bible les passages qui concernent le jugement et les peines éternelles. Voilà comment le mal doctrinal est censé couvrir le mal moral. On voit donc bien que les deux choses vont ensemble. Et elles sont introduites dans cette quatrième parabole qui, en effet, chose frappante, correspond de si près à Thyatire. Et on remarque en effet qu'à Thyatire, c'est une femme aussi qui prend la tête, c'est Jézabel. Ici, il y a ce parallèle entre la troisième, la parabole du grand arbre et celle de la farine qui lève, c'est que dans le cas du grain de moutarde, il est dit qu'un homme prie, verset 31, et il y a un parallèle voulu au verset 33, est semblable à du levain qu'une femme prie. Là, c'est une femme. Donc l'accent est mis sur l'élément féminin dans le sens de la corruption. Et on voit que à Thyatire, c'est Jézabel qui prend la tête. Elle sort de sa place et elle dirige dans l'église. Elle prend une place de tête. Et à Babylone aussi, n'est-ce pas, dans le chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse auquel on a fait allusion, c'est également sous la forme d'une femme qui est appelée la grande prostituée que nous voyons la Babylone à venir. C'est d'ailleurs très remarquable de constater également un parallélisme entre la fausse église et la vraie église. La fausse église en Apocalypse 17 nous est présentée à la fois comme une femme et comme une ville. Une femme, la grande prostituée, une ville, Babylone. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, qui est introduit par les mêmes paroles, c'est un ange qui place Jean sur une grande et haute montagne et qui lui montre quoi? La femme de l'agneau. Une femme, et puis également une ville, une cité, la sainte cité, Jérusalem. C'est très beau de voir dans la parole comment les choses se placent l'une vis-à-vis de l'autre. Mais ici, c'est le mauvais aspect, n'est-ce pas? C'est cette femme qui prend et qui cache. C'est caché, elle s'est fait d'une manière occulte, sans que l'on puisse s'en apercevoir, mais le résultat est là, il y a cette enflure, ce volume énorme, mais dans lequel, là, le levain du mal est caché.
Dans la chrétienté, on dit que le levain présenté ici, c'est le levain de l'évangile qui va faire lever tout pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est tout faux. Et on a dit tout à l'heure, on a répété que le levain était dans la parole un symbole du mal, une image du mal. Et c'est toujours dans la parole une image du mal. Et peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, c'est un principe quand on étudie la parole de Dieu, quand dans les images qui sont données, une image ne va pas changer d'un chapitre à l'autre ou d'un livre à l'autre, essentiellement. Peut-être que dans notre chapitre, on a vu tout à l'heure la semence, au début c'était la parole de Dieu, la bonne semence, à la fin, dans la parabole de l'ivraie, c'était les fils du royaume, et on a vu comment la parole de Dieu est assimilée aux croyants, dans les passages du livre des Actes, où on voit que la parole de Dieu croissait, se multipliait dans l'œuvre qu'elle faisait dans le cœur de ceux qui l'avaient reçu. Donc le levain est toujours, toujours une image du mal. Et dans les 1 Corinthiens 5, quand il s'agit du mal moral, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière ?» Et dans Galates 5, à propos du mal doctrinal qui était introduit dans l'Église, c'était pas peut-être pas très mal ce qui pourrait être introduit. Qu'est-ce qu'on disait? On disait « Oh, l'œuvre du Seigneur, il la faut, elle est nécessaire, mais il faut en plus être circoncis. Il faut en plus accomplir la loi. » Ça voulait dire simplement que l'œuvre du Seigneur n'était pas suffisante pour être sauvé. Et maintenant, on dit cela aussi. On dit, par exemple, que l'œuvre du Seigneur est suffisante, mais il faut être fidèle jusqu'au bout. On en a dit quelque chose ce matin. Être fidèle jusqu'au bout, ça veut dire que si aujourd'hui je ne suis pas fidèle et que le Seigneur Jésus vient me chercher, eh bien, je reste ici. Ça veut dire alors que l'œuvre du Seigneur n'est pas suffisante et que ce qui prime, ce qui a le dernier mot dans notre vie, c'est notre fidélité et non pas l'œuvre du Seigneur. Alors que tout notre salut, tout ce qui, sur quoi nous pouvons nous appuyer, c'est la perfection de l'œuvre du Seigneur, ce qui nous donne ainsi toute assurance. À propos encore de 1 Corinthiens 5, le passage qu'on a lu tout à l'heure sur le vieux levain. Le vieux levain, c'est le mal que nous avions en nous-mêmes, que nous avons depuis notre père Adam. Et il y a une description de ce vieux levain dans 1 Corinthiens 6, de versets 9 et 10, où il est dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. » Il y a une liste de 10 péchés épouvantables qui sont donnés là. C'est le vieux levain. Cette liste de 10 péchés a été appelée par certains les 10 lépreux. Et par la grâce de Dieu, alors au verset 11, nous trouvons « Quelques-uns de vous, vous étiez tels, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Et puis dans le passage de verset 8 d'un Corinthiens 5, il est question du levain de malice et de méchanceté. Le levain de malice, cela est peut-être le mal que nous pouvons dire par notre bouche, que nous pouvons dire des uns et des autres, la calomnie, la médisance, le levain de malice. Et le levain de méchanceté, c'est peut-être le mal que nous faisons aux autres, que nous pouvons nous faire mutuellement. Alors, il faut que ce levain-là soit ôté. Bien sûr, dans notre parabole, il s'agit de la parabole du royaume des cieux. Il s'agit peut-être pas tellement de notre vie de chaque jour, mais combien nous avons à nous souvenir de l'exhortation de l'apôtre Paul, ôtez le levain du milieu de vous. Notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête. Célébrons la fête des pains sans levain. Qu'est-ce que ça veut dire, célébrer la fête? Célébrer cette fête des pains sans levain. Quand la Pâque était sacrifiée, pendant 7 jours ensuite, à la Pâque, il ne devait y avoir dans la maison des fils d'Israël, il ne devait pas y avoir de levain, ils ne devaient pas manger de pain avec du levain, et ni même avoir du levain dans leur maison. Et cela voulait dire qu'il n'y avait pas dans leur maison, dans leur vie, le moindre mal ne devait pas être toléré. Et si on réfléchit un peu à ces 7 jours, quand on commence une semaine, hier, nous avons commencé cette semaine dans laquelle nous vivons, et on va passer toute la semaine jusqu'à samedi, si le Seigneur ne vient pas nous chercher d'ici là. Et quand on aura fini les 7 jours, il faudra commencer une autre semaine. C'est donc que les 7 jours, c'est quelque chose qui est complet. Quand vous avez cru au Seigneur Jésus, eh bien vous avez commencé au fond la semaine de votre vie, jusqu'au moment où le Seigneur viendra nous reprendre. Et quand ce temps de notre vie sur la terre sera terminé, il y aura autre chose, une autre semaine, l'éternité qui va commencer. Eh bien, à partir du moment où notre Pâque Christ a été sacrifié, vous avez compris que le Seigneur est mort pour vous, célébrons la fête des pains sans levain. Vivez dans la séparation de ce mal. N'acceptez pas le levain dans votre bouche, le levain dans votre cœur, le levain dans vos actions, et n'acceptons pas non plus le levain dans l'assemblée.
Notre frère a dit tout à l'heure, cette association du mal doctrinal et du mal moral, combien cela est vrai. Et pour ceux d'entre nous qui ont dû connaître des moments pénibles où il a fallu lutter pour la bonne doctrine, combien on a eu l'occasion de se rendre compte qu'en fait, mal moral existait ou préexistait au mal doctrinal. Et notre cher frère, M. Louis Chaudier, accréditait une telle pensée par un témoignage scripturaire. Il nous citait le chapitre 15, la première épître aux Corinthiens, et nous disait ceci. Vous voyez le plus merveilleux réquisitoire en faveur de la résurrection. Pas seulement de la résurrection du Seigneur, pas seulement d'une résurrection morale qui est celle du croyant, mais la résurrection physique, la résurrection du corps du croyant. Qui ignore le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, un long chapitre où l'apôtre démontre la réalité de la résurrection de nos corps, du corps du croyant. Et voici que, au milieu de tout cet enseignement doctrinal, nous entendons une exhortation de ce genre, et il a tiré notre attention sur ce verset. Ne soyez pas séduits. C'est exactement au milieu du chapitre doctrinal concernant la résurrection du corps du croyant. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas. Cela se trouve dans le verset 33e de ce chapitre 15, la première épître aux Corinthiens. Il nous montrait par là combien, même au milieu d'un long enseignement doctrinal, il y avait la nécessité de mettre en garde sur le plan moral, de mettre en garde qui que ce soit d'entre nous. Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela est frappant de voir une telle exhortation, un tel avertissement au milieu d'un semblable chapitre éminemment doctrinal. Notre frère avait bien raison en insistant sur ce point. Mal doctrinal et mal moral vont très, très souvent ensemble.
Cette parabole, la femme a caché le levain. Donc, c'est une entreprise qui se rattache à celle de l'adversaire, qui évite de se découvrir et agit de telle manière que Paul dira dans l'Épître aux Galates, des faux frères furtivement introduits qui s'étaient insinués, la femme a caché ce levain, les faux frères furtivement introduits pour amener de fermentation qui fait lever la pâte toujours davantage. Mais le feu, la cuisson, arrête cette opération, cette action du levain, comme il en sera du jugement. Mais le levain n'arrête pas de se manifester, et un peu de levain fait lever la pâte tout entière. C'est une femme en opposition avec l'homme. La femme, dans ce cas, et dans d'autres passages, est toujours la contrepartie, la contrefaçon, la caricature de ce qui est de Dieu. Et les trois mesures de fleurs de farine, notre frère a rappelé tout à l'heure qu'il s'agissait sans doute de ce qui est divin, de Dieu lui-même, du Seigneur, du Saint-Esprit. Et l'on voit dans 1 Corinthiens 12 comment l'apôtre affirme que pour l'édification de l'assemblée, pour son fonctionnement, pour sa bénédiction, tout se rattache à Dieu, tout se rattache au Seigneur, tout se rattache au Saint-Esprit. Hélas, tout cela a été bien vite balayé pour remplacer ce qui est de Dieu dans son origine par l'action de l'homme. Encore un mot maintenant sur les femmes dans le Nouveau Testament. Trois femmes, en voici une, qui introduit le levain. Le mal introduit dès le commencement des hommes qui étaient des adversaires furtivement introduits et s'insinuant au milieu des saints pour introduire cet élément corrupteur. Jézabel, dans le cas de Thyatire, qui enseigne mes esclaves à commettre fornication, c'est la prétention à l'enseignement, point de salut hors de l'Église. Et elle s'est arrogée le titre de docteur, elle était seule habilitée pour enseigner la parole de Dieu. Elle enseigne les esclaves, l'affirmation à l'infaillibilité et à la seule autorité, étant la seule autorité pour dispenser l'Écriture et pour l'expliquer. Enfin, la troisième femme, c'est donc Babylone, et nous disons encore ce mot, notre frère a cité tout à l'heure quelques caractère essentiel de Babylone en opposition avec la vraie Église. Et quelqu'un a fait remarquer qu'il y avait sept oppositions. Nous les citons rapidement, nous les avons notées. Babylone, cette femme abominable, elle est vêtue de pourpre, ce qui met l'homme en évidence, ce qui lui donne de l'importance. Rien comme la pourpre ne donne de la valeur extérieure à un homme. Vêtements de pourpre, les vêtements sacerdotaux, le Seigneur par dérision était vêtu d'un vêtement de pourpre, nous le savons. Elle est vêtue de pourpre, tandis que la véritable Église, elle est revêtue de bonnes œuvres, de sainteté. Dans le cas de Babylone, elle est grande, la grande ville, c'est pour l'Église la sainte cité. Pour Babylone, c'est une prostituée. Elle est appelée la mère des prostituées. C'est dans son sein qu'on trouve la source de toutes les prostitutions, de toutes les abominations. Elle est donc une prostituée en opposition avec l'épouse. Elle est Babylone, dont le nom de l'Ancien Testament éveille évidemment ce qu'il y a de plus opposé au peuple de Dieu, le siège de l'idolâtrie notamment. Elle est Babylone, tandis que l'Église est la Jérusalem d'en haut. Toujours un contraste absolu. Pour voir cette femme abominable qui est montée sur une bête, qui est revêtue de pourpre d'écarlate, qui se met en honneur et qui domine le monde, il faut aller au désert. Pour voir l'Église, Jean est invité à monter sur une haute montagne. Toujours un contraste remarquable. La femme sinistre, Babylone, elle est assise sur une bête pleine de noms de blasphème. Elle est pleine d'abominations. C'est la plénitude dans le mal au point de vue religieux. La bête, c'est la plénitude dans le mal au point de vue civil, au point de vue politique. Une bête pleine de noms de blasphème, ni Dieu ni maître. La femme, cette femme hideuse, elle est assise sur une bête. L'épouse de Christ, l'assemblée, l'Église, elle est la femme de l'agneau. Vous voyez, une bête abominable, pleine de noms de blasphème, et d'autre part, l'agneau. Ensuite, dernier caractère, pour cette femme si terrible dans le Nouveau Testament, Babylone, sa fin, c'est d'être brûlée au feu. Il ne restera rien de toute sa pompe, de toute sa gloire. Elle est brûlée au feu. Pour l'épouse, viens, je vais te montrer la gloire de la sainte cité, la gloire de l'épouse lorsqu'elle est ravie et que Christ la présente à lui-même glorieuse.
De fleur de farine, c'est en Genèse 18, verset 6. C'était Abraham, le père des croyants, lorsqu'il reçut l'Éternel et les deux anges. Il a compris ce qui convient au Seigneur. Trois mesures de fleur de farine et pas de levain dedans. C'était une fête de sept jours de pain sans levain. Est-ce que ça, c'est pour nous aussi une fête de manger des pains sans levain? Il faut en manger tellement qu'on est rassasié, alors on n'a plus faim pour avoir autre chose que le monde nous présente. Que ce serait pour nous tous une fête de manger des pains sans levain. Dans le type de l'Ancien Testament, nous trouvons le gâteau et qui devait être présenté sans levain. L'offrande du gâteau, c'est Christ. Modèle de Christ, il n'y a pas aucun de levain dans toute sa vie. Et le sacrificateur pouvait en manger. Quelle part de manger cette offrande de gâteau? Au contraire, en Lévitique 23, on trouve un type de l'assemblée de pain cuit avec le vin, parce que ça présente l'assemblée. Malheureusement, nous ne sommes pas encore parfaits, mais le vin est passé par le feu et nous devons toujours juger le mal quand il veut agir dans notre vie. Et encore une fois, que ce serait pour nous une fête de manger ce pain sans levain, nourrir de Christ. Alors, nous commençons à haïr le mal et d'être tout à fait heureux en Christ.